Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview, émission que vous écoutez et qui va présenter aujourd'hui Agribiodrome, à commencer par Philippe Riffard. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Riffard, vous êtes maraîcher retraité et membre du conseil d'administration d'Agribiodrome à l'heure actuelle, et aussi de Olivier Lebourgeois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi exploitant sur la plaine de Chamarges et vous nous expliquerez en quelle activité vous exercer. Donc, il y a cette assemblée générale qui s'annonce pour le vendredi 29 mars, et à la fin de cette semaine. À partir de quelle heure d'ailleurs ?
À partir de 9h30.
Ça sera à la salle polyvalente, donc c'est en matinée, hein, avec d'ailleurs un ordre du jour qu'on détaillera à la fin de l'émission, hein, pour annoncer ces rendez-vous. Et on va d'abord commencer par décrire ce qu'est Agribiodrome.
Alors, on va essayer de faire court, puisque l'historique remonte déjà à quelques dizaines d'années. Donc, un groupement de développement de l'agriculture biologique qui compte toutes les productions agricoles du département et qui a pour mission, effectivement, d'appliquer dans toutes les fermes le cahier des charges de l'agriculture biologique qui date maintenant, cahier des charges d'abord français puis européen, et qui remonte maintenant aux années 90. Donc on a plusieurs missions, on a entre autres celle de bien nourrir la population avec des produits sains, sans aucun usage de produits de traitement et d'engrais chimiques de synthèse. Et on a connu un développement, on peut dire, quasi ininterrompu, jusqu'à, effectivement, ce petit accident qu'a été le Covid, où on a vu, en 2020, les gens s'enflammer sur les circuits courts et les magasins bio exploser. Et puis, malheureusement, le contre-coup qu'on connaît depuis 2 ans, mais qui n'est, pour moi, pas rédhibitoire, puisqu'on va pouvoir remonter la pente avec des valeurs sûres, les convictions qu'on défend et les résultats qu'on obtient.
Une petite précision, ce contre-coup, est-ce que ça a ramené l'économie bio à l'avant Covid, ou alors c'est encore plus grave ?
Alors, tout dépend de quel circuit on parle. Si on parle des circuits courts, on peut dire qu'il n'y a quasiment jamais eu d'interruption de croissance. Là, je parle en moyenne nationale. Et je pense pouvoir vérifier que dans la Drôme, c'est la même chose. Après, sur les circuits longs, et en particulier la grande distribution, là, on a bien vu que les décisions qui étaient prises par ce secteur n'étaient pas forcément dénuées d'intérêt à court terme, mais ils ont effectivement réduit leur rayon, réduit l'offre quand ils ont vu que les rayons fonctionnaient un peu moins bien. Et là, c'est peut-être à ce niveau-là où il y aura le plus de mal à remonter. Mais globalement, si on parle en termes de chiffre d'affaires, au plan national, hein, comme en termes de volume de vente, en fait, les baisses sont... on pourrait dire qu'on est revenu, grosso modo, pour faire court, à l'année 2019. Mais il n'y a rien de catastrophique. Mais par contre, effectivement, le discours actuel, il est plutôt pessimiste. On est dans un contexte très anxiogène et du coup, les consommateurs ont besoin d'être rassurés, et les producteurs aussi.
Ça, c'est une vision à courte vue, hein. Alors, il y a cette mission de faire connaître, hein, et de donner goût aussi aux consommateurs et aux particuliers de cet apport biologique en nourriture. Alors, en quoi consistent vos missions et comment s'opèrent-elles auprès du public ?
Voilà. Disons que les missions d'Agribiodrome, pour être très précis, on a 2 pôles. On a un pôle agronomique, donc là c'est bien en direct avec les producteurs, sur le plan formation, sur le plan groupe d'échange, tout ce qui concerne l'aide à l'amélioration de la production pour mieux vendre. Et d'autre part, on a un pôle alimentation et qui est quasiment aussi important, car il s'agit bien là d'introduire la bio en restauration collective et je dirais de l'introduire dans les têtes de tous les décideurs. Les collectivités locales commencent à être vraiment en confiance avec nous. On travaille sur les PAT, donc les programmes alimentaires territoriaux, aussi bien sur Valence, sur Montélimar, sur les communautés de communes comme celle de Diwa. Un peu plus que deux équivalents temps plein, travaille sur le sujet des circuits courts et de la restauration collective. Et là, il y a un chantier absolument énorme. Et on le sait aussi au niveau national, les objectifs qui devraient atteindre les 20% de bio en restauration collective sont très loin d'être atteints. Donc, il y a du boulot.
Et d'ailleurs, ce développement nécessite aussi un apport de l'État, peut-être aussi. Est-ce qu'il n'a pas été mis à mal ou sera peut-être mis à mal avec ces restrictions budgétaires à venir ?
Alors, on va dire qu'il y a. Si on est à court terme, on n'est pas forcément très aidé par le gouvernement actuel, et je suis gentil quand je dis ça. Pour prendre qu'un exemple. Il y avait un plan d'urgence qui était proposé par le réseau bio qui était de 270 millions d'euros pour la filière bio nationale, pour compenser les pertes. Il ne s'agissait pas de se faire du gras. Et le Parlement avait voté pour ce plan d'urgence. Or, le 49-3 est passé par là et le gouvernement, malheureusement, ne l'a pas accepté. Et aujourd'hui, on a obtenu de haute lutte 104 millions d'euros, ce qui est évidemment totalement insuffisant. Et le président de la FNAB, donc de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui sera présent à notre Assemblée générale l'après-midi, donc c'est sur la journée, le matin, c'est l'Assemblée générale statutaire, et l'après-midi, c'est vraiment le grand débat. Et donc, Philippe Camburet, qui est un éleveur de Bourgogne, est président actuellement de la FNAB, pourra nous dire tout ce qui se passe en ce moment au niveau macroéconomique comme au niveau des différentes filières. Et là, on se rend bien compte que l'aide actuelle est largement insuffisante, en sachant que on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a d'autres problèmes que sont évidemment la concurrence des labels fantaisistes comme le HVE, le haute valeur environnementale, bon, qui a peut-être le mérite d'exister si on considère qu'il est sincère dans sa démarche, mais c'est bien ce dont on doute, puisqu'il n'a aucune réelle contrainte et obligation envers les pesticides. Et là, on ne pourra pas être sur le même plan.
Ça, c'est pour l'aspect national. Est-ce que on pourra peut-être décrire un peu plus au niveau local, la Drôme notamment, puisque vous êtes une représentation de ce département avec Agribiodrôme. Donc, cela fait plus de 35 ans qu'existe Agribiodrôme. Je ne sais pas si l'un de vos membres sont issus de cette naissance. Non, plus trop maintenant.
Là, on pourra difficilement.
Mais est-ce que vous avez des contacts avec ces personnes qui ont créé ce syndicat local ? Et est-ce qu'ils vous nourrissent aussi de leur expérience ?
Alors, pour donner un petit peu le fonctionnement de l'association, on a deux co-porte-parole, que sont Josette Fournier et Jean-Maxime. Josette fait vraiment partie de celles qui ont été à l'origine de ce groupement. Et elle pourrait en parler évidemment bien mieux que moi. Mais là, on a maintenant une histoire, on a une reconnaissance, donc encore une fois, aussi bien des collectivités que des producteurs, et on a des objectifs. Et aujourd'hui, 1800 fermes en bio, alors chiffre 2022, je tiens à préciser, mais 1800 fermes en bio dans la Drôme, on est le premier département de la région, on est aussi bien en termes de surface qu'en termes de nombre de fermes. Et je pense que on peut, encore une fois, être fier du parcours des résultats obtenus, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il y a d'autres départements qui, comme l'Ardèche, avec lesquels on commence à nouer des liens un peu plus étroits, qui, voilà, ce que l'on est en train de faire peut servir de locomotive pour d'autres.
Je me tourne vers Olivier Le Bourgeois. Donc vous, vous êtes exploitant agricole sur la plaine de Chamarges. En quelle production précisément ?
Alors du coup, moi je suis installé du coup avec ma compagne. On est en maraîchage donc biologique, bien évidemment, en circuit court puisqu'on vend essentiellement, on vend tout sur Die, essentiellement la Carline et dans d'autres magasins sur la commune de Die. Donc c'est du maraîchage plutôt diversifié, une vingtaine d'espèces de légumes. Voilà, dans un climat qui est le climat du Diois, donc plutôt sur des cultures de, on va dire, été-automne, pas trop de cultures printanières. On a installé l'an dernier une serre qui va nous permettre du coup de produire un peu plus tôt au printemps, ainsi que notamment tout l'hiver, puisqu'on oublie souvent que les salades qu'on mange l'hiver sont produites sous serre. Donc en gros, ça va nous permettre d'annualiser notre production, donc décréter un peu les pics de travail et d'avoir une commercialisation tout au long de l'année.
D'ailleurs, peut-on parler de légumes de saison sur lesquels vous travaillez précisément ?
Alors oui, on est en légumes de saison. Sous serre, on va dire que on peut cultiver de la tomate plein champ. Après, on en cultive sous serre pour un peu de précocité et pour une gestion de la culture qui est plus simple sous serre. Mais par exemple, l'an dernier, où nous n'avions pas encore de serre installée, on a cultivé adis, aubergines, courgettes et tomates à l'extérieur. Après, on aura par exemple la courgette primeur qui arrive un peu plus tôt et qu'on cultive sous serre. Mais ouais, je pense que la serre permet surtout de cultiver beaucoup de légumes feuilles entre octobre et mars.
Votre production, on pourrait convenir à nourrir combien de personnes ? Est-ce que vous avez fait une estimation comme ça ?
Non, je mentirais. C'est dur à calculer. Puis la partie légumes sur la partie de l'alimentation totale.
C'est difficile à chiffrer. Hein, donc.
Ouais.
Vous vouliez intervenir ?
Oui, alors pour deux choses. La première, c'est qu'il faut bien préciser que la plupart des maraîchers en bio travaillent, quand ils ont des abris, travaillent avec des abris froids, c'est-à-dire qu'ils ne chauffent pas. Ce qui est totalement différent qu'un conventionnel qui va effectivement sortir de la tomate au mois de janvier-février, parce qu'il aura planté au mois d'octobre-novembre, sous serre chauffée. On avait obtenu, et c'est bien là où on voit que les victoires sont toujours fragiles, on avait obtenu qu'effectivement, dans le cahier des charges, les producteurs bio ne sortent pas de tomates sous serre chauffée. Et ça a été cassé. Je pense que là, certains lobbies productivistes ne sont pas étrangers à cette décision. Et aujourd'hui, on peut à nouveau, certains producteurs pourront se laisser tenter, effectivement, pour produire bio sous serre chauffée. Mais on est sur la position du réseau FNAB, et bien clair là-dessus, c'est une aberration de dépenser de l'énergie pour produire des légumes, des fruits ou autres d'ailleurs. Et l'avantage d'une serre froide, c'est qu'on a beaucoup moins de problèmes sanitaires si on est très attentif à la façon de la prévention, je dirais, l'aération, l'arrosage au bon moment, etc. Et on a évidemment des légumes de meilleure qualité puisqu'ils ont plus de matière sèche que ceux qui sont poussés à donf, comme on peut l'imaginer, en serre chauffée. Oui, peut-être la deuxième chose, c'est que par rapport au nombre de gens qu'on nourrit, effectivement, en légumes, c'est toujours compliqué quand on a plusieurs, surtout en vente directe ou locale, et on a plusieurs types de clientèle. Bon, moi, à l'époque, quand j'étais encore en activité, en ayant des marchés de détail, des magasins et des paniers, on estimait qu'on touchait un bon millier de personnes par semaine. Alors après, toucher ne veut pas dire nourrir, hein, bien sûr. Mais ça pouvait être rapidement assez important. Et là, dans la mesure où Olivier, l'essentiel de leur production va aller au magasin La Carline, on peut penser que le nombre de gens touchés sera également très important. Et c'est encore une fois le relocaliser ce type de production, que ce soit d'ailleurs le légume, la vigne ou l'arboriculture, qui est peut-être le parent faible un petit peu sur notre département, en tout cas en bio. Mais ce qui est sûr, c'est que il est urgent de relocaliser parce que sur le plan énergétique comme sur le plan qualitatif, on aura tout à gagner.
Je reviens à Olivier. Votre ferme s'appelle comment ?
Eh bien, on n'a pas été très inventif. Elle s'appelle la ferme de Chamarges.
La ferme de Chamarges. Et donc, avec votre compagne, vous vous êtes lancé directement sur cette exploitation ou vous aviez une expérience antérieure ou alors un désir d'emblée de produire bio ?
Alors, nous, on a suivi... Alors oui, le désir de produire bio, je pense que nous, oui, on fait partie d'une génération où voilà, on n'est pas issu forcément directement du monde agricole. Donc, pour nous, produire bio semblait être une évidence avant. On va dire que maintenant, ça me semble toujours une évidence. Je pense que c'est vraiment une pratique qui est très intéressante parce qu'il faut quand même se casser pas mal la tête. Il faut réfléchir pas juste en termes de solutions, on va dire, techniques faciles. Il faut comprendre l'environnement dans lequel est située la ferme. Il y a quand même des notions d'écologie à avoir, donc je trouve que ça c'est assez riche intellectuellement d'avoir toutes ces questions à se poser. Et nous, on a fait un BPRE à Die en 2019, donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur le territoire du Liwa. Et par la suite, on a été salarié plus bas dans la vallée à Beaumont-les-Valences à la ferme des Volonteux. Et ensuite, avec ce projet de ferme que développait la Carline, on est remonté tel un saumon. On a remonté le cours de la Drôme pour revenir dans le Diwa et s'installer et puis du coup concrétiser le projet qu'on avait en tête.
Cette concrétisation, avez-vous eu un soutien pour une installation ?
Oui, on a eu pas mal de soutien. On a eu un gros soutien de la part de la Carline. Enfin, c'est un projet qui s'est co-construit avec eux, qui n'aurait pas été possible sans eux. Donc voilà, avec tous les producteurs qui sont fondateurs et membres de la Carline, c'était aussi très aidant de connaître notre débouché. Je pense que c'est ce qui est dur parfois aujourd'hui quand on s'installe, c'est de dimensionner une ferme pour un débouché qu'on ne connaît pas encore. Nous, on avait la facilité de se dire, voilà, si vous êtes capable de produire tant de kilos de carottes, théoriquement, on n'aura pas de problème pour vous les vendre.
Mis à part la Carline, est-ce que vous envisageriez d'aller au-delà de ce circuit de distribution pour vos productions ?
Alors, on vend déjà un peu à d'autres magasins. On a vendu aussi un petit peu à la restauration collective, à Chabestan, principalement des courges. Donc voilà, apparemment, les courges ont été appréciées par les enfants, donc ça fait plaisir. Ça, c'est pour moi personnellement un débouché qui me touche, on va dire, c'est de pouvoir nourrir des enfants en agriculture biologique et locale. Je trouve que c'est sympa. Tout n'est pas pécunier, on va dire. Des fois, la restoco, c'est pas forcément les prix qui tirent vers le haut, mais voilà, au moins se dire que les petits dans les cours d'école mangent des produits locaux.
Je vais justement revenir sur un sondage grandeur nature qui a été fait par l'agence bio sur le moral des producteurs bio. Et il s'avère que, donc, quand je dis grandeur nature, c'est-à-dire sur 20% des producteurs bio français, donc 12 000 producteurs, ce qui n'est pas négligeable. Et là, on s'aperçoit que, j'ai juste deux chiffres, 85% des producteurs bio vraiment considèrent que le fait d'être passé en bio a contribué à leur bonheur, donc à leur équilibre personnel. Et 95% sont très fiers d'être en bio. Donc il n'y a aucun regret, Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on constate quelques défections, des déconversions, et essentiellement dans les grandes cultures, parce qu'effectivement, les prix ne sont plus là, les débouchés patinent un peu, pour différentes raisons. Mais pour moi, ça reste un épiphénomène. Là, il ne faut absolument pas qu'on se démobilise. Et c'est pour ça que vraiment cette Assemblée Générale, pour nous, est importante, avec l'intervention du président de la FNAM, parce qu'il y a toujours, les valeurs sont défendues, les hommes sont là, Et quand on voit l'exemple d'Olivier, je pense qu'on peut dire, banco, c'est possible. Il faut juste que les acteurs locaux se mobilisent. Et ça peut être effectivement un magasin bio, ça peut être le département, ça peut être une communauté de communes, comme dans les PAT, c'est ce qui va se passer. Enfin, voilà, il y a les outils. Maintenant, il faut que les producteurs se bougent et adhèrent, d'une part. C'est la première, je dirais, la première démarche. Et puis ensuite, on les accueillera avec plaisir, soit dans une commission, un groupe de travail, soit, pourquoi pas, comme stagiaire au conseil d'administration. Enfin bref, voilà, tout est ouvert et on espère bien se faire entendre.
On va aborder l'aspect de l'Assemblée Générale avec la teneur de cette journée qui commence à 9h30, donc avec une présentation par le pôle Alim. Alors, qu'est-ce que le pôle Alim et le pôle agro d'AB26, vous en avez parlé un petit peu. Ce sont deux structures qui sont, inhérentes à l'agriculture biologique dans la Drôme.
Je laisserai Olivier en partie justement répondre sur l'alimentaire parce qu'il est en prise directe. Mais sur le pôle agronomique, c'est 4 salariés d'Agribiodrome qui travaillent déjà depuis plus de 10 ans, qui travaillent effectivement sur l'amélioration des pratiques agronomiques. Et il y a du boulot parce que effectivement, il y a ceux qui ont, j'allais dire, sans vouloir être méchant, un peu oublier leur métier, qui est de travailler la terre, travailler au sens noble, bien sûr. Et il y a ceux qui arrivent, qui sont non issus du milieu agricole, qui ont une formation, on va dire, relativement restreinte. Et ceux-là, il faut effectivement aussi les accompagner, enrichir leurs connaissances pour que, la terre n'ait plus de secret pour eux, ça serait prétentieux, mais en tout cas qu'on puisse prendre les bonnes décisions rapidement. J'ai vu trop longtemps des producteurs s'user parce que ils n'ont pas tenu compte de l'expérience de ceux qui les ont précédés. Donc voilà, là, avoir des animateurs techniques qui soient sur le terrain, qui provoquent les groupes d'échange, qui invitent à des formations d'une journée ou deux journées, ça, c'est une vraie richesse. Et le groupement bio de la Drôme, donc Agribiodrôme, a vraiment ce rôle essentiel.
C'est pour ça que vous, Olivier, vous vous êtes tourné auprès d'Agribiodrôme.
Ouais, enfin, quand tu parlais de soutien, nous, quand on est sorti de BPEA, donc voilà, c'est comme dit Philippe, c'est une formation qui est, on va dire, assez restreinte, surtout sur la partie agronomique. Et du coup, pendant 2 ans, on était salariés, on a suivi des formations donc qui étaient proposées par les GAB, donc soit Agribiodrôme, soit les GAB voisins, Ardèche, Adabio en Savoie. Et c'est vraiment lors de ces formations. Parce que c'est formations où c'est pas juste du savoir descendant. On discute avec des producteurs qui ont 10, 15 ans de bouteille. Et c'est tous ces petits détails, c'est cette finesse de. Forcément, dans les livres, on peut lire dans la littérature un tas de trucs. Mais sur le terrain, il y a toutes ces petites finesses qu'apportent les gens qui ont plus de bouteilles. Et lors de ces formations, enfin, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. C'est un gros soutien là-dessus. Et aujourd'hui, on a la chance, nous, d'avoir depuis peu de nouveau un technicien maraîchage très compétent. À plein temps, dans la présence de Christian Lacard. Et du coup, qui anime des groupes, ça permet d'échanger, savoir si les problèmes qu'on a eus une année, ils sont dus à une pratique qu'on aurait ratée, ou bien si sur cette année, tout le monde a eu le même problème de ravageur ou que sais-je. Et ça permet aussi d'envisager, on est quand même soumis au changement climatique, on le sent bien ici dans la Drôme l'été. Donc ça permet aussi de se poser des questions au niveau de la ressource en eau, comment mener des cultures avec des périodes de canicule. Et ça, tout seul dans sa ferme, où on est déjà un peu submergé par la quantité de travail et la charge mentale, avoir des petites soupapes pour discuter avec les autres, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans ses problèmes, que peut-être un autre, un début de solution, et pas réinventer la roue quand elle a déjà été un peu inventée. Ça, c'est un gros soutien au quotidien.
Comme fut un temps, bien avant la guerre même, il y avait aussi ce rapport entre paysans qui se donnaient la main sur une activité ponctuelle et interchangeaient ainsi aussi les services. C'est un peu cet esprit-là qui perdure un peu.
Ouais, je pense que d'une certaine manière, forcément, même sur des fermes à petite taille, on reste quand même esselé parfois dans nos fermes. Clairement, par rapport au temps avant Première Guerre mondiale, la population agricole ayant quand même bien diminué, même sur des territoires comme le Diwa, avec beaucoup de fermes au mètre carré, on reste souvent seul. Et donc ces moments d'échange sont vraiment, enfin, moi, me nourrissent. C'est donc pour ça que, en partie, j'adhère à Agriviodrome.
Il y a un esprit solidaire.
Ouais, je pense que c'est un esprit solidaire. Apporter un début de solution à son collègue. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on est en concurrence sur les marchés. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se dire « je vais être le seul à sortir la tête de l'eau ». Enfin, l'idée, c'est un peu ce côté émulation. On sortira tous grandis si on avance ensemble plutôt que chacun contre les autres.
Je vais peut-être juste rajouter un petit point là-dessus. C'est qu'effectivement, si on peut parler de la philosophie de la bio, eh bien, ça a été dès le départ de réunir toutes les productions. C'est-à-dire que dans un même groupement de développement, on avait toutes les productions. Donc déjà, on avait cette idée que les filières, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi donner une vision globale de notre agriculture au niveau local comme au niveau régional ou national. Et cet esprit de solidarité, il faut le cultiver. C'est pas évident. Comme le dit Olivier, on peut être en concurrence sur des marchés, sur des magasins. Il faut donc l'animation technique comme l'animation, j'allais dire, commerciale ou logistique. C'est même trop court, hein, c'est réducteur. Mais il faut toujours revenir sur l'idée qu'on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. On est là pour travailler sur un projet commun qui est de nourrir la population dans les meilleures conditions, sans impact sur l'environnement et avec un objectif à la fois de santé, bien sûr, mais aussi de préserver. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on nourrisse toujours la population. Et quand on nous dit la bio ne peut pas nourrir le monde, bah déjà, si on pouvait se contenter dans la Drôme et en France, de nourrir les consommateurs drômois ou français, ça serait déjà pas mal.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Je voudrais juste un petit point sur cet aspect que vous cultivez, c'est tourner vers le nutritionnel, hein, principalement, contrairement à d'autres exploitations productivistes qui sont plutôt vers une production de confort, je parlerai du sucre notamment. Est-ce qu'il y a aussi pour vous ce discernement ?
Alors le sur le sucre, je ne sais pas, je pense que la question de Paul...
C'est un exemple, hein, le sucre.
Oui. En tout cas, je pense que ce que défend la FNAB et au niveau du GAP, c'est une bio à échelle humaine. Il y a quand même ce pilier social. Il y a notamment, alors moi j'ai pas d'employés, mais je sais qu'au niveau national, la FNAB a travaillé avec la CFDT Agri-Agro pour déterminer des conditions de travail. L'idée, c'est pas de faire de la bio en faisant venir des travailleurs détachés du Monténégro mal payés pour désherber à la main. Et faire joli, vendre de la bio. C'est une bio qui nourrit les consommateurs, les gens qui se nourrissent, mais c'est aussi qui préserve le revenu des paysans qui travaillent. Et quand les paysans embauchent de la main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre qui est bien traitée, qui est pas... parce que sinon, c'est du dumping. L'idée, c'est pas de faire du dumping en interne.
Le vrai challenge, c'est comment on arrive à sortir un revenu pour tout le monde, producteur ou salarié, tout en ayant effectivement cette idée l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est effectivement de gagner sa vie, mais surtout, c'est de préserver, développer des techniques et aller vers... La FNAB, à un moment donné, parlait d'un projet de société. Parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas... Si on respecte le cahier des charges stricto sensu, c'est quand même assez réducteur. C'est-à-dire qu'on pourra toujours... c'est d'ailleurs en ça qu'on a des critiques vis-à-vis de la bio espagnole, italienne ou autre. C'est qu'en fait, on considère que bon, le cahier des charges, c'est bien joli, mais si socialement, les salariés sont exploités ou si le producteur ne gagne pas la moitié du SMIC, c'est qu'il y a un problème. Et on est bien d'accord là-dessus, c'est que la bio, il faut qu'elle défende un ensemble de choses. C'est pas qu'un cahier des charges, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, et encore une fois, ce sondage de l'Agence Bio, il faut qu'on, voilà, il faut qu'on maintienne cette satisfaction de produire tout en étant bien dans ses baskets, en ayant une vie sociale. Il faut pas, moi, quand j'entends encore aujourd'hui des producteurs qui nous disent j'en peux plus, 70 heures par semaine, pas de vie sociale, une famille éclatée, etc. Et bien ça, ce n'est pas normal. Il faut que, là encore, c'est bien là où l'agriculture biologique a un vrai message, c'est qu'il faut qu'on soit reconnu dans tous nos impacts, et c'est pas que nourrir, c'est aussi sur le plan environnemental, et ce plan environnemental, il doit être reconnu, certes politiquement, officiellement, médiatiquement, mais aussi financièrement.
Toujours dans cette matinée, à la suite de cette présentation, il sera procédé à l'élection des administrateurs. Cela s'opère avec combien de candidats, combien de personnes sont élues d'ailleurs lors de cette élection?
Alors là, c'est un peu notre talon d'Achille. C'est qu'en fait, c'est aujourd'hui compliqué, effectivement, de demander à des producteurs déjà bien investis dans leur travail de venir en réunion, de participer à des réunions téléphoniques, à des groupes de travail, etc. Et pourtant, on y arrive parce que, effectivement, grosso modo, un conseil d'administration d'une dizaine de personnes, entre 10 et 12 personnes, il y a le statut de stagiaire qui permet, effectivement, de venir voir comment ça se passe, de participer avec ses moyens et sa disponibilité, et de voir éventuellement à poursuivre si la personne se sent bien. Mais je crois que on a toujours reçu plus qu'on nous donne. Ça, pour moi, là, je parle de 40 ans d'expérience. Tous les groupements auxquels j'ai pu participer, les réunions de travail, les groupes, les comités de pilotage, etc., sur la bio, on s'est toujours enrichi. Donc, il y a effectivement, on pourrait dire que comptablement, il y a du temps à passer et ça ne va pas nous rapporter demain matin. Mais sur le plan humain, et je dirais même sur le plan de l'échange technique ou autre, on est toujours gagnant à participer plus activement à son groupement. Mais déjà, la première démarche, c'est adhérer. Là, on va effectivement demander un petit effort pour faire rentrer du monde au conseil d'administration, parce que on sait que, pour être très, très pragmatique, sur un conseil d'administration de 12 personnes, quand on est 7-8 en réunion, c'est bien, parce qu'il y a eu les impondérables d'hiver qui ont empêché certains de venir. Mais là, effectivement, on considère que être moins de 8 en conseil d'administration, là, on est moins légitime. Donc, il faut qu'il y ait du monde, avec les limites de chacun, mais on peut vraiment affirmer à tous nos futurs candidats qui pourraient se dévoiler vendredi prochain, n'ayez pas peur, c'est de toute façon un projet dans lequel vous vous retrouverez.
À la suite de ces résultats, il y en aura à ce moment-là, je pense, il y aura un repas. Donc, qui sera chaud et préparé par AB26. Ça sera l'occasion aussi de goûter un peu à la production locale. On ne peut pas forcément dévoiler le menu, j'imagine. C'est un peu prématuré.
Oui, parce que je vous avouerai qu'on ne le connaît pas. Mais c'est l'association La Trame qui va préparer ce repas. Et on demande effectivement aux adhérents qui vont se déplacer s'ils peuvent apporter un dessert, qui une boisson, pour agrémenter un petit peu ce repas. Mais ça reste, le principe, c'est convivialité et on n'est pas dans un... il faut que ça reste simple, quoi. Voilà.
L'après-midi, ce sera un thème de débat, je pense, qui s'intitule « La bio, un combat pour nourrir, une victoire pour l'avenir ». Ça résume un peu ce que vous disiez sur cette manière de nourrir et de cultiver pour l'avenir également. Il y aura donc dans cette situation un temps d'échange avec le président de la FNAB, Philippe Comburet, dont vous nous avez parlé en préambule. Et qu'est-ce qu'on peut définir de cette Fédération nationale de l'agriculture biologique? Quelle est son action
Sur le plan national, la FNAB Bonhomme Malan représente, avec ses adhérents, on va dire 20 à 25% des producteurs bio français. On a la difficulté, je dirais, c'est de garder auprès du ministère cette représentativité. Et effectivement, c'est bien là tout l'objet de l'attention qu'on porte aux adhésions, parce que c'est à la fois un combat, j'allais dire politique, et à la fois le besoin de montrer qu'on est bien présent dans tous les départements. Mais s'il n'y avait pas le réseau FNAB, il n'y aurait pas le crédit d'impôt, il n'y aurait pas l'aide d'urgence qu'on a obtenue, il n'y aurait pas tous les accompagnements, justement, quand il s'agit d'aller défendre la bio française au niveau européen, et il n'y aurait pas tous les contacts qu'on a avec toutes les différentes directions. Je sais que les sigles changent, donc je vais pas forcément sortir les sigles que j'ai en tête, mais les différents services du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement, etc., on est présents et on se bat pour faire reconnaître l'excellence, en fait, de ce label AB. Et je dis ça parce que j'ai évoqué tout à l'heure HVE, haute valeur environnementale. Bon, pour nous, en bio, c'est une escroquerie intellectuelle. Même si les producteurs qui y vont sont de bonne foi. C'est pas eux qu'on va juger. C'est ceux qui défendent ce label au même titre que la bio. Il était question de donner autant d'aide aux producteurs HVE qu'aux producteurs bio. Alors que les contraintes du cahier des charges bio n'ont rien à voir avec le cahier des charges de HVE.
Cette HVE est d'origine de quelle instance ?
Je relisais ce matin, je crois que ça émane du ministère de l'Agriculture, mais bon,
c'est pas parce que ça émane du ministère de l'Agriculture que ça n'émane pas de quelqu'un derrière qui aurait poussé à la création de ce label. Mais non, je pourrais pas répondre, j'ai pas l'élément de réponse, mais on a quand même l'impression, enfin, moi il y a quelques temps, en formation, on s'intéressait par exemple à un terme qui employait l'agriculture raisonnée, et qui était quelque chose qui avait été fortement poussé par les vendeurs de produits phyto. Et on entend encore des fois ce nom, il n'est pas en bio, il est en agriculture raisonnée, parce que bon, la labellisation bio, ça coûte. Et ça, c'est un peu un argument pipeau, parce que moi, je vois par exemple dans le cas donc, de notre ferme, donc pour avoir le logo AB, on a un organisme certificateur de notre choix. Voilà, nous, ça nous coûte à peu près 400 euros par an. Et on va dire que grâce à ça, Philippe parlait du crédit d'impôt bio, qui aujourd'hui s'élève à 4500 euros. Donc dire que ça me coûte, c'est un peu mentir. Donc c'est vrai, quand on entend parfois « non, je ne suis pas en bio, mais je suis en agriculture raisonnée », en fait, tout le monde fait de l'agriculture raisonnée. Je veux dire, même les gens qui sont en agriculture chimique, on ne passe pas un pesticide parce que ça fait plaisir. Ça a un coût, c'est pas agréable à faire. Donc on raisonne de toute manière, toutes les pratiques sont raisonnées chez les dits conventionnels ou chez les biologiques. Donc c'est parfois un peu caché. Et c'est vrai que ce HVE cache un peu le logo, c'est un joli papillon, un soleil. Je disais encore ce matin là, sur des fraises qui apparaissaient en rayon, donc avec un joli logo HVE, produite en France, mais sous serre chauffée et des fraises qui étaient hors sol. Et du coup, le consommateur, c'est vrai que le consommateur... Nous, comme on est producteur, on est plus dedans, on voit la différence. Mais le consommateur qui est... l'acte d'achat est souvent rapide, on le sait. L'acte d'achat se fait souvent en grande surface, pour les légumes. Mm-hmm. On a beau ici défendre, on est peut-être dans un territoire qui est un peu trop... Enfin, qui n'est pas trop... Où il y a beaucoup de circuits courts et c'est bien. Mais on oublie que, je ne sais plus, 70% des actes d'achat de produits alimentaires se font dans les grandes surfaces. Et le consommateur, face à tous ces logos, le AB, le FER, le Équitable, le HVE, bon bah, il ne sait plus trop à quel sein se vouer. Il voit un petit papillon, il y a écrit « haute valeur environnementale ». Il se dit « bon, bah, c'est bien ».
Et allez. C'est moins cher.
Et il dit « ah, c'est un peu moins cher que le bio et en même temps, ça a l'air bien ». Et c'est vrai qu'il y a aussi une pression sur les ménages. Hein. Moi, je ne jette pas la pierre aux consommateurs.
Je reviens un peu sur le terme d'attribution de ce label bio. J'ai souvent entendu, effectivement, depuis quelques années, que cette labellisation était coûteuse pour un producteur. Qu'en est-il exactement pour proposer quoi et sous quelles conditions pour un producteur tel que vous ?
Alors, coûteuse, moi, comme
vous
je dis...
Vous parlez de 400 euros par an.
Ouais, j'ai 400 euros par an. Alors, actuellement, il y a, comme je dis, il y a ce crédit d'impôt qui est à 4500. Donc, on pourrait dire que j'ai un crédit d'impôt de 4100 euros et le coût est pris en charge par ce crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt, il est voté pour 2 ans parce qu'il est c'est voté au PLF. Donc, on ne sait jamais si ça va durer encore très longtemps. Alors, c'est ça qui peut paraître fou. Hein. Je conçois qu'on est obligé, nous, de payer... Pour prouver qu'on est bien en agriculture biologique. Alors c'est vrai que là-dessus, la question peut être posée de est-ce que c'est bien au producteur de devoir débourser pour prouver qu'il est en agriculture biologique. Ça, c'est un point, c'est une question. Après, nous, le fait que le label soit garanti et par des contrôleurs certifiés et indépendants permet de garantir que voilà que ce que défend le cahier des charges AB est bien appliqué et n'est pas une vague fumisterie. Donc, on a deux contrôles. Tu vois, hier, j'ai eu mon contrôle. Il y a un contrôle qui est prévu, où on regarde un peu tout ce qui est facture, et on a un contrôle inopiné. Donc, moi, hier matin, je vois débarquer à 10h le contrôleur. Dans ma tête, je me dis, et puis voilà, on a fait un petit contrôle des champs, de ce qu'il y avait dans les champs. Les paquets de semences, voilà, on avait semé des oignons le samedi, on a regardé les paquets. Voilà, c'est un contrôle inopiné et lui, il a son métier est de voir si ici ou là, il n'y aurait pas des pratiques qui seraient...
Cette personne qui contrôle émane de quel service ?
Alors du coup, les contrôles, ce n'est pas un service de l'État. Ça, je n'ai pas l'historicité. Moi, je suis chez EcoCert, mais il y a plusieurs entreprises de certification qui proposent ce service. Philippe aura peut-être...
Oui, en deux mots, hein, EcoCert était un petit peu historiquement le premier organisme certificateur. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine, je n'ai plus le chiffre exact, mais ils sont tous agréés par l'État. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont contrôlés et qu'ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur, parce que sinon leur agrément saute. Et je crois qu'aujourd'hui, refuser la certification, ça peut se comprendre pour un producteur qui va faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Et évidemment, 400 euros sur 10 000, il peut se poser la question. Mais ce qu'il oublie, c'est que souvent, il peut prétendre à des aides qu'il ne va pas chercher. Soit parce qu'il en ignore l'existence, soit parce qu'il le refuse idéologiquement. C'est son choix. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, la certification n'est pas un vrai coût. Quand on sait tout ce que, effectivement, le réseau FNAB, GRAB et GAB a obtenu, et en aide donc directe. Et ce que permet la certification, c'est quand même une vraie reconnaissance. On a un cahier des charges en béton, il faut quand même le dire. Le contrôleur, quand il vient, alors ça dépend évidemment des productions, mais il peut passer entre 2 heures et une journée. Donc derrière, on a vraiment quelque chose de fiable. Il faut que le consommateur soit vraiment convaincu de ça. Je ne suis pas sûr que pour d'autres labels, ça soit aussi contraignant et aussi fiable. Maintenant, la question, effectivement, c'est que la bio, encore il n'y a pas si longtemps, était considérée comme une niche. Donc ça gênait personne. Aujourd'hui, on représente 11% des surfaces et 14% des fermes en France. Et si je prends la Drôme, et là, le chiffre, moi-même, m'a surpris parce que je n'étais pas certain que ça en ait autant. Avec nos 65 000 hectares de bio en Drôme, on représente 35% des surfaces, donc surfaces agricoles utiles, et 34% des fermes. Donc c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que c'est possible et que c'est pas la révolution. On ne fait pas la révolution derrière. C'est juste... changement de pratique, on accompagne les gens qui veulent se convertir, on accompagne les gens qui s'installent pour la première fois, qui n'ont pas toutes les compétences, et ça marche parce que effectivement, en face, il y a une population à nourrir et si elle peut être nourrie sainement et localement,
tout le monde y trouve bénéfice.
Voilà.
Il y aura donc avec la venue de Philippe Camburé un peu un aperçu de la situation de l'agriculture biologique sur le niveau national. Ça permettra peut-être d'avoir encore une connaissance approfondie et peut-être aussi d'éveiller des vocations. Et puis l'heure tournant, nous approchons de la fin. On peut indiquer aussi un site qui s'appelle Bon Plan Bio qui répertorie toutes les installations sont, qui sont voués à l'agriculture bio. C'est une carte interactive qui permet aussi d'agrandir hein, sur les départements, les zones, et notamment sur la Drôme. Quelle est la proportion, justement, entre éleveurs, maraîchers, céréaliers, est-ce qu'il y a une certaine parité ou, qui réponde, justement, aux nécessités?
En ce qui concerne le végétal, on va avoir... alors, la somme ne fera pas, effectivement... la somme des producteurs va faire plus que 1800 fermes, puisque des fermes font plusieurs productions, bien sûr. Donc, sur les grandes cultures, alors toujours chiffre 2022, hein, on a 690 producteurs en grande culture, on a plus de 1000 producteurs en culture fourragère, et on a, là c'est pour Olivier et moi, 410 producteurs de légumes, et on va avoir 670 producteurs de fruits. Alors évidemment, il y a les noyers, il y a hein, toute production de fruits.
D'ailleurs, les fruits sont mis à mal hein, avec ces gels tardifs. Ça, c'est aussi un problème qui sera amené.
Absolument. Là-dessus, l'évolution climatique, ça fait partie, je pense, du souci de tous les producteurs, conventionnels ou bio. Mais en bio, effectivement, on essaye d'avoir une approche un petit peu globale pour voir comment, d'une part, Olivier l'a dit, économiser l'eau, comment faire des rotations plus longues pour justement minimiser les besoins en éléments minéraux comme en eau, et avoir aussi une vision globale de sa ferme, c'est-à-dire comme un espace de biodiversité à préserver. Et là aussi, il y a d'autres assos qui peuvent nous y aider. Et je finis par la vigne avec 420 producteurs et les plantes aromatiques et médicinales où on a quand même 500 producteurs. Enfin, encore une fois, c'est à la louche, mais environ 500 producteurs. Et là, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on est premier département sur toutes ces filières, sauf sur les fruits où on est second. Après, sur les productions animales, là, ça change effectivement beaucoup. Là, on sera plutôt dans les... à part, évidemment, sur tout ce qui est brebis, viande, brebis laitière et chèvres. Pour les autres productions, je peux prendre un exemple. Par exemple, les poulets... les poules pondeuses, si, on est au premier rang quand même. Hein, c'est avec 409 000 têtes, donc c'est pas négligeable. Et on est au deuxième rang de l'apiculture. Production trop souvent négligée et oubliée. Et la région Aura est au premier rang français au niveau apiculture. Hein. Donc, on a sur la Drôme 8340 ruches, chiffre 2022.
Voilà. Je vais devoir abréger parce que le temps nous manque. Préciser, est-ce que la ferme de Chamarges a une visibilité sur Internet pour faire découvrir cette activité?
Non, on n'a pas de site Internet. Il y a... on va dire quelques visites organisées en collaboration avec la Carline, qui organise d'autres visites sur d'autres fermes de producteurs qui vendent en son sein.
Et puis, il y a le site aussi de AgriBiodrôme, hein, assez complet, qui présente toutes les facettes de ces activités à l'adresse de tous, hein, que ce soit le particulier ou aussi les collectivités locales, et aussi des entrepreneurs également. Eh bien, en tout cas, Philippe Riffard et Olivier Le Bourgeois, je vous remercie tous deux d'être venus sur RDIWA pour nous annoncer cette Assemblée Générale AgriBiodrôme. Ça sera aussi un moment de découvrir beaucoup de monde et peut-être d'échanger sur ce qui existe et qui pourra peut-être aussi être à créer.
Absolument. Et on attend justement, généralement, les assemblées générales se passent plutôt de façon centrale sur Cray. Là, on a voulu justement délocaliser pour attirer tous ceux qui n'auraient pas l'occasion de venir jusque-là. Et on espère faire une très belle assemblée générale. Et encore merci pour votre accueil.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.